conférence de Marie-France Carnus, crise sanitaire, continuité pédagogique et rupture professionnelle vers des nouvelles formes de coopération dans la recherche-action EDI-COVID. Pour situer un petit peu Marie-France Carnus, donc elle est professeure en sciences d'éducation à Toulouse, au sein de l'UMREFTS. Alors, je me suis fait mes petites notes, mais je vois que tu en as fait aussi. Donc, elle pilote l'EDIC, hein, l'équipe de didactique clinique, un courant qu'elle a très largement contribué à fonder, hein, un courant qui se situe à l'interface entre la didactique, on va dire une approche sensible à la question du savoir, aux spécificités des disciplines scolaires, des domaines de savoir, et puis à la clinique, un champ sensible à la singularité du sujet, et en particulier, très souvent dans nos travaux, dans les travaux du champ, du sujet enseignant. Elle est l'auteur aussi évidemment de nombreuses publications, et notamment de deux ouvrages, des deux ouvrages fondateurs de la didactique clinique, hein, qu'elle a co-dirigé avec André Théris, Quels enjeux de savoir chez Debeuc en 2009, et puis le sujet enseignant en question aux éditions Revue EPS en 2013. Et nous l'avons plus particulièrement invitée, elle va nous le dire, mais parce qu'en fait elle pilote une recherche-action depuis le printemps 2020, la recherche EDI-COVID. Je pense qu'elle va y revenir intensément, donc je la laisserai parler, mais qui vise d'une manière générale à étudier les formes de continuité et de rupture qui sont dues à la crise dans les pratiques professionnelles des enseignants de la maternelle à l'université. Et aussi, c'est peut-être pour ça que c'est une recherche-action, à développer, au-delà de l'enquête, hein, des ingénieries qui visent à accompagner les acteurs dans, je dirais, tu le retraduiras Marie-France, hein, des nouvelles peut-être pratiques hybrides, capitalisant, disons, ben, ce qui s'est fait de mieux ou ce qu'on a réussi à faire de bien durant les confinements. J'en dirai pas plus. Je vais laisser à Marie-France intervenir. N'oubliez pas que le fil de discussion est ouvert. Et puis, voilà Marie-France, donc tu as à peu près une petite demi-heure.
Merci, vous m'entendez bien là? Apparemment.
Très bien. Est-ce que dans le... Ouais, oui, parfait. Oui, ça a l'air d'être bon.
Bien. Ben, merci Pablo pour cette introduction et merci aux organisateurs d'avoir pensé à moi pour présenter ce travail. Effectivement, comme tu l'as dit, ce travail qui a été initié, qui est tout jeune et pour lequel je n'aurai hélas pas beaucoup de résultats à présenter, quelques-uns quand même, sachant que c'est très récent et que la plupart des analyses sont en cours. Donc en fait, l'objectif de cette présentation, effectivement, c'est de présenter le projet ERA EDI-COVID. EDIC, c'est le nom de l'équipe, et COVID, donc tout le monde sait ce que c'est. Donc c'est un petit clin d'œil par rapport au fait que c'est notre équipe qui a initié le travail, sachant qu'il y a d'autres chercheurs qui sont intégrés dans ce vaste chantier. Ces ancrages, ces avancées et ces enjeux. Voilà, donc voilà un petit peu les points que je vais développer. J'espère que moi aussi j'ai tendance à être très longue, donc je vais essayer quand même de me tenir au timing. Il y a 25 diapos, ça risque d'être un peu short, sinon je m'arrêterai et je répondrai aux questions. De toute façon, le document sera à disponibilité des écouteurs. Voilà, donc en fait, comme bon, ben, vous le savez, en mars 2020, suite à l'annonce de confinement, donc à cette crise sanitaire que nous traversons, eh bien, les enseignants ont été enjoints de mettre en place ce qu'on a coutume d'appeler la continuité pédagogique pour gérer la crise. Et donc, une première remarque, effectivement, c'est que cette continuité pédagogique est apparue comme un allant de soi institutionnel au regard, ben, pour gérer une crise qui nécessairement allait engendrer un certain nombre de ruptures professionnelles, ce qui explique un peu le titre de cette intervention. Donc, un allant de soi institutionnel, rarement discuté, rarement mis en question, mais bon, pourtant, qui a quand même posé un grand nombre de problèmes. Donc, le titre du projet, l'acronyme c'est ERA EDI-COVID, le titre de cette recherche, qui, comme je vais vous le présenter, va se dérouler en trois volets, s'intitule Pratique d'enseignement-apprentissage en contexte de confinement, continuité ou rupture pédagogique. Donc, ce projet a été initié à la suite d'un appel d'offres par l'ANR, donc sur Covid-19, n'a pas été retenu pour les financements, Mais le travail initié pour constituer le projet a lui-même suffi pour finalement nous donner l'envie, le désir de pouvoir poursuivre sur les différents volets de cette recherche. Donc, comme je vous le disais, à l'origine, ce sont 8 chercheurs donc, de l'équipe EDIC qui ont coordonné et qui coordonnent cette recherche. Donc, je vais les passer en revue. Donc, c'est une équipe à la fois pluricatégorielle et pluridisciplinaire. Donc, il y a des docteurs, des PRCE, des professeurs certifiés, des professeurs d'école. Il y a des collègues maîtres de conférences et il y a également des collègues HDR. Voilà, donc une équipe pluricatégorielle, mais également internationale, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous, d'ailleurs elle est présente à cette conférence, Madame Eger Benjouma, maître assistante à l'Université de Tunis et qui fait partie de notre équipe, qui est partie prenante dans ce projet. Donc, les enjeux de cette recherche se situent effectivement à l'interface de la recherche et de la formation. Et l'enjeu principal au départ, le point de départ qui a initié le projet, était de sortir de l'ombre, si on peut dire comme ça, la variabilité, la singularité et l'ingéniosité des pratiques d'enseignement-apprentissage engendrées de la maternelle à l'université par les conséquences de la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. Les visées de ce projet de recherche sont donc à la fois heuristiques et praxéologiques. Ce projet est nourri, structuré par des apports théoriques et méthodologiques de la recherche en sciences humaines et sociales, et plus particulièrement en didactique clinique, et j'y reviendrai dans cette conférence. Donc, on pourrait déjà écrire une première problématique, un ancrage problématique entre continuité pédagogique prescrite et rupture professionnelle réelle. Il s'agit de décrire pour comprendre et accompagner les pratiques professionnelles des enseignants, éducateurs et formateurs dans ce contexte inédit, déstabilisant, étrange et même inquiétant. Le projet RID COVID a une dimension internationale, francophone, notamment dans ses 2 premiers volets, puisque 11 pays ont participé à l'enquête, la France, la Tunisie, le Canada, la Belgique, la Suisse, l'Algérie, le Maroc, le Bénin, le Congo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc, comme vous le voyez, c'est un projet d'envergure. Alors, je vais reprendre un à un les volets et puis les objectifs. Donc, dans un premier temps, il s'agit en effet de décrire, en dressant un état des lieux des pratiques adaptatives des sujets de l'institution, en réponse à l'impératif de continuité pédagogique. Donc, ce premier volet s'est déroulé entre avril 2020 et septembre 2020, par le biais d'une enquête en ligne à l'échelle internationale. 3200 personnes ont répondu et 2100 réponses nous sont parvenues complètes, donc exploitables. 900 professionnels ont manifesté leur désir de continuer la recherche avec nous et d'être donc volontaires pour poursuivre dans cette recherche, ce qui fait un vivier de professionnels qui est très impressionnant, de la maternelle à l'université bien sûr. Le deuxième volet est de comprendre ce qui se joue chez les sujets enseignants, éducateurs et formateurs de l'institution, toujours de la maternelle à l'université. Ce deuxième volet s'est déployé entre avril 2020 et décembre 2020 par le biais de l'écriture de 120 récits de pratiques expliquant la manière dont ces professionnels se sont adaptés personnellement et professionnellement aux demandes de leur institution pour assurer cette continuité pédagogique. Qu'est-ce qu'ils y ont éprouvé, qu'est-ce qu'ils y ont ressenti et qu'est-ce qu'ils en retirent aujourd'hui? Enfin, le troisième volet qui est en cours de déploiement et dont l'enjeu est d'accompagner ce que l'on pourra appeler les déformations, transformations de leurs pratiques en proposant des pistes concrètes pour les optimiser dans un contexte mouvant et incertain. Donc, il est en train de se déployer. Il va courir jusqu'en décembre 2022. Je développerai un petit peu plus ce volet par la suite de ma conférence. Donc, il se déploie sur le modèle de la recherche-action. Il s'agit de concevoir, de mettre en œuvre et d'évaluer une cinquantaine d'ingénierie hybride didactique clinique coopérative pour information dans la recherche ANR telle que nous l'avions posée. Si nous avions obtenu les financements, nous avions l'intention de développer près de 300 ingénieries. Alors, je vais développer volet par volet et vous donner quelques petits résultats. Donc, le premier volet est une enquête en ligne où nous avons eu donc 2100 réponses complètes. Vous avez quelques statistiques descriptives. Nous sommes en cours d'analyse, donc je ne vous en donnerai pas plus, même si c'est un peu frustrant. Quelques chiffres, 65% de femmes pour 35 d'hommes, 23 répondants dans le primaire, 45% dans le secondaire, 32% dans le supérieur. Près de 70% ont géré le confinement et la continuité pédagogique avec leur ordinateur portable, leur propre ordinateur portable. 75% ont eu recours à la fois à des outils formels, plateformes institutionnelles, mais aussi des outils informels. 68%, la plupart ont travaillé avec des outils synchrones, c'est-à-dire permettant d'avoir une interaction en temps réel, donc par le biais de classes virtuelles ou de visioconférences. La plupart, 80%, disent qu'ils ont conscience d'avoir réellement gagné en compétences numériques sur cette période de confinement. Il ressort également la richesse des pratiques déclarées, avec une multitude d'adaptations, de trouvailles et même d'ingéniosité. Et c'était vraiment le but, là, nous sommes en train de faire cet état des lieux de ces trouvailles qui sont tout à fait intéressantes qu'il convient de sortir de l'ombre. Pour 67%, le numérique est plutôt un synonyme de plaisir, même s'il y a des petites variations dans ces pourcentages entre avant le confinement, pendant le confinement et après. Pour près des trois quarts, le confinement a fait évoluer leurs pratiques sur le plan pédagogique et ou didactique, sans pour autant rendre plus faciles les enseignements. Près de 85% disent qu'il est nécessaire d'avoir une formation spécifique sur ces pratiques numériques, mais en contrepartie, plus de la moitié disent n'avoir jamais été formés à cela. Pour 70%, ça c'est une petite information pour Stéphane Bonnery, je ne sais pas s'il est là, mais du coup j'ai rajouté cette ligne ce matin. On a posé la question, selon vous, le numérique diminue-t-il les inégalités sociales? Pour 70%, le numérique ne diminue pas les inégalités sociales. Toutefois, 8% disent que oui et 16% sont incertains. Enfin, nous envisageons de développer les analyses au regard des spécificités disciplinaires et au regard des outils utilisés, mobilisés, parce qu'il est clair que, par exemple, entre une discipline comme le français, les mathématiques, ou une autre comme l'EPS, les problématiques sont tout à fait de nature différente, et les outils mobilisés également. Et donc l'enquête, avec sa richesse et ce corpus énorme que nous sommes en train d'explorer, nous permettra d'apporter un certain nombre de réponses à ces questions-là. Quelques éléments sur le volet 2. Donc, ce sont des récits de pratiques. Donc là, les analyses sont en cours. Nous avons demandé aux enseignants, tout de suite après le confinement, donc entre avril et septembre, de dire comment ils avaient vécu le confinement, comment ils avaient vécu la continuité pédagogique, qu'est-ce qu'ils avaient mis à l'œuvre et qu'est-ce qu'ils en avaient ressenti. Alors, quelques résultats. Là aussi, c'est très superficiel, qui sont en cours d'analyse, puisque sur les 120 récits de pratiques, nous en avons à peu près analysé 80. Et nous sommes en train de faire des analyses croisées, et donc forcément des analyses qualitatives qui prennent beaucoup plus de temps. Donc déjà, au niveau du temps concédé pour écrire ces récits, qui vont de 15 à 300 minutes, et une longueur de 60 à 2500 mots, donc des récits très variables, en temps et en longueur, sachant que nous avions limité à 3 pages le récit de pratique pour des raisons de traitement. Il ressort que pour la plupart des personnes qui ont rédigé, la continuité pédagogique est un impératif, une évidence, un allant de soi institutionnel qui n'est pas remis en question dans la plupart des cas. Même dans près de, alors bon, on n'a pas fait de statistiques, mais dans la très grande majorité des cas. Les intentions au regard de cette continuité pédagogique se répartissent, on va dire, dans trois catégories qui sont soit isolées, soit combinées. La catégorie qu'on pourrait dire didactique, c'est-à-dire que les enseignants ont mis en œuvre la continuité pédagogique pour finir le programme, donc on pourrait dire de nature didactique par rapport à des savoirs particuliers à continuer à faire acquérir aux apprenants. Un volet plutôt pédagogique, la continuité pour maintenir le lien pédagogique avec les, et éviter le décrochage, notamment avec les étudiants et avec les familles. Et enfin, un axe plus, donc une dimension plus axiologique, donc par devoir professionnel, par humanisme, pour effectivement pouvoir, ça va, c'est quand même assez dans le sens du lien pédagogique. On relève là également, ce qui corrobore ce que nous avions vu aux enquêtes, le foisonnement des mises en œuvre distancielles, adaptatives, riches, ingénieuses, créatives. Les enseignants ont fait, même s'ils ne savaient pas quoi faire ni comment faire, ils ont fait. Donc, c'est développé ce qu'on pourrait appeler un savoir y faire professionnel. On relève également une forte ambivalence dans les affects, les émotions, les sentiments, les ressentis exprimés, entre souffrance et plaisir, entre honte et fierté, je m'explique, fierté d'avoir réussi et honte d'avoir parfois contribué à creuser les inégalités pour certains, entre amour et haine, notamment au regard de l'institution, donc ce sont des sentiments très forts qui se manifestent, l'institution qui pour certains les a lâchés, entre euphorie et abattement, dans les mêmes récits, on voit également dans les aspects hyperactivité et puis être complètement abattu, entre colère et apaisement, entre indignation et résignation. Voilà. Donc on voit dans un même récit cette ambivalence dans les affects et ceci est tout à fait intéressant, surtout pour notre approche didactique clinique. Un sentiment dominant d'abandon de la part d'une institution défaillante, ce qui corrobore un certain nombre de travaux qui ont été faits dans le domaine. Les enseignants déclarent avoir été abandonnés par l'institution qui n'avait pas anticipé, qui n'avait pas les moyens de les aider, qui ne pouvait pas les soutenir, qui ne pouvait pas les protéger. Et donc, effectivement, au cœur d'un rapport au numérique singulier, on met en évidence à la fois des freins et des moteurs qui sont les ressorts de la pratique enseignante dans ces situations de mise à distance obligée et de nature à stimuler ou à inhiber l'action didactique. Donc, je vais revenir sur la question du rapport au numérique. C'est une notion que l'on cherche à conceptualiser car nous pensons que ce rapport au numérique est en effet la clé de voûte de la mise en œuvre de la continuité pédagogique. Avec les guillemets. Donc, nous analysons ce rapport au numérique sous l'angle de trois rapports qui synthétisent un certain nombre de nos outils théoriques et méthodologiques en didactique clinique. Un rapport à l'institution, donc, qui est caractérisé par le positionnement sur des axes en tension sur trois axes, axe de l'assujettissement entre soumission et émancipation, l'axe du confort entre risque et sécurité, axe de la reconnaissance entre inclusion et exclusion. Donc, au regard de l'analyse des récits de pratique, nous tâchons de positionner les sujets sur ces axes en tension. Deuxième rapport, le rapport à l'épreuve, donc, qui se caractérise par des positionnements sur trois axes. L'axe de l'expérience entre étrangeté et familiarité, l'axe de la contingence entre inhibition et excitation, et l'axe de l'affect entre souffrance et plaisir. Et enfin, le rapport au savoir numérique, qui se positionne également sur trois axes. L'axe de l'expertise entre distance et proximité, l'axe du désir entre attirance et répulsion, et l'axe de la rencontre entre nouveauté et ancienneté. Donc effectivement, on relève chez chacun des sujets dont nous analysons les récits, des constructions et un positionnement singulier sur chacun de ces axes en tension. Je n'ai pas trop le temps de développer cette modélisation, mais nous pourrons y revenir par la suite si vous le souhaitez. Je vais arriver au troisième volet de la recherche, c'est celui qui va m'occuper le temps jusqu'à la fin de ma conférence. Donc on pourrait dire de manière, dans un premier temps, qu'en fait ces ingénieries, alors ce sont des ingénieries hybrides, didactiques, cliniques, coopératives. Donc nouvelles, on va dire, nouveau genre d'ingénierie que nous avons appelé donc IHD2C et qu'on essaye là aussi de conceptualiser, qui constitue en fait un outil de recherche-formation dont l'objectif est d'accompagner les professionnels tout au long du processus d'hybridation, et là on a un mot-clé de ce volet, de leur enseignement et d'optimiser leurs pratiques professionnelles dans ce contexte dit dégradé. Donc leur élaboration de ces ingénieries est ancrée dans l'histoire interne et le savoir-faire d'un collaborateur de terrain, que nous surnommons le COT, qui est volontaire et associé à la recherche. Donc il s'agit en fait, cette histoire interne, d'un déjà-là décisionnel, à la fois conceptuel, intentionnel et expérientiel, et en particulier au cœur de ce déjà-là décisionnel, un rapport, son rapport au numérique. Donc, un savoir y faire qui va répondre à la conjoncture et à la contingence. Ces ingénieries sont co-construites, mises à l'épreuve et analysées au sein d'une équipe pluricatégorielle et pluridisciplinaire. Alors, en termes d'ancrage épistémologique et théorique, sans trop développer, donc effectivement, notre épistémologie didactique clinique nous situe dans une double filiation, à la fois didactique et clinique psychanalytique, qui permet de centrer nos problématiques sur le suivi des enjeux de savoir à travers la logique énigmatique du sujet. Le sujet est singulier, assujetti à l'institution et divisé dans et par son inconscient. Le sujet est pris dans le didactique, il se débat dans un triple rapport, le rapport à l'institution, le rapport à l'épreuve, de l'interaction et le rapport au savoir. Nous nous inscrivons dans une méthodologie temporelle en trois temps, sur lesquels je vais un petit peu revenir, le déjà-là, l'épreuve, l'après-coup. Deuxième ancrage épistémologique et théorique, l'ingénierie didactique et son schéma chronologique en quatre phases, dans la lignée des travaux pionniers de Guy Brousseau et de Michel Artigue, qui sont nés en didactique des mathématiques, sur lesquels je vais revenir. Troisième ancrage théorique, l'ingénierie didactique coopérative, initiée par Sainte-Seville, mais reprise également par de nombreux chercheurs, qui amène à penser des ingénieries d'un nouveau genre, et là je cite Sainte-Seville-Mercier, sous la responsabilité conjointe des professeurs et des chercheurs, construisant ensemble des fins communes à un processus pensé comme collectif au sein de dispositifs qui restent pour la plupart à inventer. Donc on est tout à fait dans cette philosophie et dans cette dynamique. Un mot sur les quatre phases de la méthodologie didactique, issue de la didactique des mathématiques, dont la première phase est appelée analyse préalable. À travers quatre analyses préalables, nous accédons finalement à une contextualisation globale de cette ingénierie sur laquelle vont se fonder les options de l'ingénierie. Donc la première renvoie à l'analyse épistémologique des contenus d'enseignement-apprentissage visés par l'ingénierie. Donc il s'agit à la fois, donc, à partir de la lecture des documents programmatiques et d'une étude de ces documents, de voir quelles sont les compétences disciplinaires visées, méthodologiques, sociales, mais aussi numériques. Deuxième analyse préalable, l'analyse du déjà-là décisionnel du collaborateur de terrain, et en particulier de son rapport au numérique, à travers un entretien semi-directif. j'en ai déjà parlé. La troisième analyse préalable est relative à l'estimation du travail personnel de l'élève hors de la supervision directe de l'enseignant. C'est ce qu'on a coutume d'appeler le travail asynchrone, donc dans un temps asynchrone, et nous y accédons au moyen d'un sondage. Et enfin, la quatrième étude est relative à l'analyse du champ de ressources et de contraintes dans lequel se met en œuvre l'ingénierie, grâce à des explorations diverses, notamment sur les ressources et les contraintes locales des établissements dans lesquels nous intervenons, et des classes, bien sûr, par rapport aux élèves concernés. La phase 2 relative à la conception et à l'analyse a priori. Donc, il s'agit là de spécifier les choix didactiques, pédagogiques et les outils numériques mobilisables dans l'ingénierie en répondant à ces questions. En quoi les choix effectués permettent de faire apprendre les élèves? Quelle est la nature et la durée de ces apprentissages? Quels sont les enjeux de savoir? Quelle plus-value et moins-value du numérique? Et quel degré d'hybridité? Je reviendrai sur cette notion de degré d'hybridité. Quel degré d'hybridité envisager? De ces choix, nous passons à l'élaboration d'un script didactique, aussi bien d'un point de vue macro sur une séquence d'enseignement, c'est ce qu'on appelle la macro-ingénierie, qu'au point de vue micro sur deux ou trois séances qui donneront lieu à une observation plus systématique. Nous allons spécifier dans cette phase les modalités des variables de commande de l'ingénierie, à savoir notamment celles relatives au degré d'hybridité. Et puis, donc, cette phase nous permet de préciser les principales options au regard des enjeux de savoir. À la suite de ce script, nous passons à la formalisation d'un scénario didactique sous la responsabilité du collaborateur de terrain qui, en fait, va traduire, s'approprier et incorporer ce script au niveau donc micro-didactique et donc en fait en faire, le faire sien et le présenter à l'ensemble de l'équipe. Donc il s'agit en fait d'une préparation minutieuse qui traduit le script en scénario par le collaborateur de terrain. Cette préparation se fait au filtre de son déjà là. Et donc là, nous avons affaire effectivement à ce que Pablo Busnik-Bourjac appelle la conversion didactique, c'est-à-dire la transformation des contenus de son expérience en contenu d'enseignement. Il s'agit à ce stade-là, pour le chercheur, de repérer des points potentiels d'achoppement qui pourraient surgir à travers des écarts éventuels entre script, qui est une élaboration collective, et le scénario, qui est de la responsabilité du collaborateur de terrain. La principale variable de commande des ingénieries, j'en ai parlé, renvoie au degré d'hybridité, donc qui est variable en fonction de trois éléments. D'une part, de la singularité du sujet, enseignants, formateurs sont déjà là et son rapport au numérique. Deuxième élément, les particularités des contextes, y compris des publics apprenants, et j'aurais bien envie de dire même surtout des publics apprenants, on comprend bien qu'on ne va pas hybrider de la même façon en maternelle qu'à l'université. Et donc, chaque contexte a ses contraintes, mais aussi ses ressources qu'il convient d'intégrer. Et puis, également, notre approche didactique nous amène à regarder de près les spécificités disciplinaires. Comme je vous le disais, en fonction des disciplines, effectivement, on peut penser que ce degré d'hybridité est de nature à varier.
Marie-France, je me permets de revenir. Normalement, le temps, j'essaie de faire dans le chat, mais c'est compliqué. Le temps est plus ou moins écoulé. Est-ce que tu pourrais essayer de conclure un petit peu, qu'on ait le temps d'avoir un peu de discussion. Je te laisse.
Je veux bien. Alors, je vais juste finir sur les deux diapositives et puis peut-être une conclusion, si tu me le permets.
Bon, t'en prie, tu as deux minutes.
Voilà, voilà, c'est un peu nouveau comme présentation et vu l'envergure du projet, c'est un peu… Mais bon, le diaporama sera à disposition des participants. Donc, en fait, je vais juste faire un petit zoom sur le processus d'hybridation. Donc, entre ici ailleurs, réel virtuel, le processus d'hybridation sur lequel nous travaillons se fait au nuage de trois dimensions interreliées. Ça me permettra de relier également à la question de la présence. Donc, d'une part, à la question de la temporalité sur l'axe du temps, donc à long terme, moyen terme, court terme, et donc la dimension synchrone et la dimension asynchrone. Également l'axe de l'espace à travers la proxémie, proche versus lointain, l'absence n'étant pas l'antonyme de la distance. Et enfin, le troisième axe que nous aimerions appeler l'axe du sujet, qui renvoie à l'engagement des sujets en interaction, sachant que le sujet est présent et parfois absent. Donc là, on est sur un discontinu. Et je vais terminer sur cette diapo. Donc en fait, le nouage des positionnements, des choix didactiques et pédagogiques sur ces trois axes va nous permettre de tenir compte, de rendre compte du degré d'hybridité de l'enseignement ou de la formation, en même temps que de la nature des interactions didactiques qui peuvent ou pas s'y développer au service des apprentissages. Donc cette façon d'envisager le processus d'hybridation revisite, nous semble-t-il, le concept de présence en lien avec l'engagement et l'intentionnalité des sujets. On peut parler de présence manifeste, de présence discrète, de présence transparente, ou d'absence. Et également la notion d'interaction didactique, qui est soit directe, soit indirecte, soit médiée par l'humain, soit par le numérique. Alors, je vais voir si ça vaut le coup.
Marie-France, sinon tu voulais rajouter un dernier point pour conclure ou...
Ben, je vais peut-être mettre la dernière du coup.
Vas-y, je t'en prie.
Il y en avait quelques-unes quand même. Hein. Vous le regarderez de toute façon.
Oui, ça sera disponible. Il y a eu la question dans le fil de discussion, en effet. Hein. Tout sera disponible, on est enregistré. Pas de souci, je te laisse finir.
Mais ça va, je ne suis pas frustrée. L'essentiel, c'était déjà de faire le travail et puis de pouvoir échanger après. Donc, en guise de conclusion provisoire, hein, alors pour le coup, peut-être même, je vais peut-être... Voilà. Donc, je pourrais dire qu'émergeant d'un contexte de crise, le projet Radicovid représente plusieurs enjeux. Un, particulièrement pour la formation, l'objet est de produire de la connaissance sur le processus d'hybridation d'enseignement-apprentissage et d'accompagner les professionnels des métiers d'enseignement, de l'éducation, de la formation dans ce processus d'hybridation. Mais également pour la recherche, l'enjeu est de produire de la connaissance sur le processus de coopération dans les collectifs de recherche-action. J'en ai pas trop parlé, donc peut-être on pourra aiguiller la discussion là-dessus, en accompagnant également les équipes pluricatégorielles collaboratives dans ce processus de coopération. Donc je me suis amusée à mettre une petite métaphore, hybridation et coopération, on pourrait dire sur les deux rames d'un bateau qui s'appellera Edicovid. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là.
Merci beaucoup, Marie-France, pour cette présentation.
Je m'excuse d'avoir pas géré le temps, mais
c'est un peu compliqué. Non, une minute de plus, c'est juste moi qui suis, contrairement à mes usages quand je fais des conférences plus strictes, c'est tout le paradoxe et l'ambivalence, comme tu l'as souligné.
Eh oui.
Alors, puisqu'on a une petite dizaine de minutes, pour qu'on ait quand même après une pause, parce que c'est long les journées comme ça, pour qu'on ait quand même une petite pause, une dizaine de minutes d'échange, je vais commencer à reprendre les questions qui ont été posées et à essayer de les articuler. Pendant ce temps, n'hésitez pas, je vous le rappelle, à intervenir dans le chat parce qu'on va exporter ensuite ces éléments qui nous permettront d'alimenter la suite de nos discussions. D'accord. On a eu plusieurs types de questionnements. Il y en a un qui a interpellé, et j'avoue que ça m'a interpellé aussi, sur cette question des sentiments, notamment de l'ambivalence des sentiments. Donc, on est plutôt sur les résultats, en fait. Hein. Est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que tu sais un peu quelles sont les émotions qui ont été les plus fortes, les plus répertoriées, les plus marquantes dans les résultats de l'enquête?
Tout à fait, mais en fait, c'est ce que j'ai souligné dans les ambivalences. On voit que il y a une tension très forte entre souffrance et plaisir. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, les gens disent qu'ils ont eu mal, mais qu'en même temps, ça leur a fait du bien. Voilà, c'est un peu cette tension, sachant qu'après, ça passe par plusieurs façons de l'exprimer. Donc, soit effectivement des sentiments de colère qui arrivent, et donc là, on est plutôt du côté de la souffrance, de la colère, notamment, on voit beaucoup de colère au regard de l'institution. Ils ont été abandonnés par leur institution, mais en même temps, certains se disent avoir été reconnus, notamment par les parents, qu'ils ont eu l'impression d'exister à ce moment-là, alors que parfois, ils avaient l'impression de ne pas exister. Et on arrive à trouver ça dans les mêmes récits de pratique. Également, des sentiments de « j'ai réussi, j'ai été bon » ou « j'ai été mauvais », carrément, on voit ça. C'est-à-dire « j'ai été bon parce que j'ai réussi à garder le lien, mais en même temps, ce que j'ai proposé, ça ne vaut pas grand-chose, il va falloir que je me forme, etc. » Donc, on sent cette culpabilité également dans les récits. Et ces récits sont vraiment des trésors au niveau du contenu que nous sommes en train d'analyser. Et chaque récit, même s'il est très court, met en évidence cette ambivalence, d'une façon ou d'une autre, mais ces ambivalences, qui c'est jamais tout d'un côté ou jamais tout de l'autre. Parfois, c'est plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre, mais moi, en tout cas, sur la vingtaine ou la trentaine de récits que j'ai analysés, je n'ai pas vu quelque chose dans un entre-deux. C'est toujours dans un entre-deux, je veux dire. C'est jamais tout d'un côté ou tout de l'autre. Voilà, je ne sais pas si je réponds.
Et, en tout cas, pour moi, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. J'insiste pour dire ou pour faire préciser des réponses éventuellement. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces éléments. Il semblerait que l'ambivalence des sentiments soit structurelle, peut-être même du psychisme humain, et ressort d'autant plus pendant la crise. Mais bon, ce n'est pas moi qui réponds. Un autre ensemble peut-être plus pragmatique sur les ingénieries, en fait, de réflexions qui m'ont été soumises. Est-ce que tu pourrais peut-être témoigner, puisque pour le coup, tu les connais toutes, les ingénieries, peut-être les plus marquantes ou certaines qui sont mises en œuvre. Voilà, et moi, ça, je l'articulerai aussi avec ce que tu as dit au début sur la question des trouvailles. Tu as souligné le fait que dans la recherche, on avait capitalisé des trouvailles, des inventivités. Et est-ce qu'elles sont encore présentes dans les ingénieries? Voilà, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples d'ingénierie, de disciplines? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les dispositifs que les collègues ont inventés? Ceux qui te semblent les plus pertinents, les plus marquants, ceux auxquels tu tiens?
Alors, au niveau des ingénieries, on démarre. Donc, ça va être un peu difficile de faire... de faire un listing, hein. On démarre, il y a 6 ingénieries prototypiques qui sont en train de se mettre en place, donc vous voyez, ce n'est pas beaucoup. Dans ces ingénieries prototypiques, il y en a une dans le premier degré et dans laquelle j'ai participé au début, mais je n'y participe plus. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on est sur des volontaires, des enseignants volontaires qui, quel que soit leur rapport numérique, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent ou qu'ils ne maîtrisent pas, ont accepté de participer. Et c'est ça aussi l'enjeu, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas qu'à des gens qui maîtrisent le numérique, et heureusement, c'est-à-dire qu'on s'adresse à tout le monde. Donc sur l'ingénierie du premier degré, le collègue est quelqu'un qui a même un rapport au numérique, on va dire, très... il est plutôt dans la répulsion que dans l'attirance, si je peux le dire comme ça. Il y va en reculant, et il a pris un petit peu dans cette recherche comme un défi, finalement, de rentrer un peu plus dans l'hybridation de son enseignement. Donc là, je ne peux pas exactement vous faire un retour sur ce qui est mis en place, mais les collègues qui travaillent avec lui, eh bien, ne vont pas le sortir d'une zone de confort, parce que l'objectif n'est pas de sortir le collègue de sa zone de confort, mais vont essayer de l'amener à une étape supérieure par rapport à son rapport au numérique. Par contre, ensuite, il y a 4 ingénieries en collège, dont 2 en EPS, une qui a été stoppée pour des raisons de pandémie, c'est-à-dire qu'on a fermé les gymnases. Donc, on avait commencé à travailler sur le script, et le script était tout à fait intéressant parce qu'il y avait des usages inédits du numérique en EPS, qui est une discipline où les collègues ont beaucoup de mal, finalement, à travailler de manière à distance. Et donc là, il y avait des trouvailles par rapport à des Padlet, par rapport à l'utilisation de tablettes, par rapport à tout un tas de dispositifs que mettaient en place les enseignants pour augmenter justement ce temps asynchrone qui est pratiquement nul en EPS, alors qu'il est réel dans les autres disciplines. Et 2 autres ingénieries également en collège en mathématiques avec... des problématiques qui tournent autour de l'apprentissage, notamment du pourcentage en classe de 6e, également via l'hybridation d'un enseignement ordinaire. Et là aussi, les deux collaborateurs de terrain ne sont pas des spécialistes des nouvelles technologies et ont choisi de rester, voilà, d'aller au-delà, ne pas aller au-delà de leur zone de confort pour pouvoir intégrer un certain nombre d'outils, comme par exemple utiliser les outils qu'ils ont à disposition dans l'établissement, utiliser des tablettes, utiliser un certain nombre de logiciels qu'ils n'avaient pas forcément coutume d'utiliser. Une ingénierie dans le supérieur, alors là on est dans l'autre extrême, puisque le collaborateur de terrain est un expert du numérique, qui lui n'a aucun problème à travailler à distance et qui va profiter de cette ingénierie pour aller plus loin dans ce qu'il fait habituellement, et notamment ce qu'il cherche à savoir, c'est le ressenti de ses apprenants au regard de la formation en jeu. Et la formation en jeu, c'est la formation à et par la recherche dans un master. Voilà, donc voilà où nous en sommes pour le moment sur la vague des ingénieries. Donc effectivement, les trouvailles et la palette des trouvailles, on peut la voir à travers l'enquête et à travers les récits de pratique. Et certains mettent à profit leur savoir-y-faire et ont développé, sont partis de ce qu'ils ont mis en place pendant le confinement, qui a été un élément déclencheur pour certains, et de manière à développer leur pratique.
Merci Marie-France pour cette réponse. Et puis, en fait, vu l'ampleur de l'enquête, il y aura des publications qui ont lieu sur chacune des ingénieries, plus une deuxième vague qui va arriver. En théorie, il nous reste 2 minutes, puisqu'on avait débordé de 2 minutes. Peut-être je me permettrai d'ouvrir une réflexion autour notamment de la question, c'est peut-être pour éclairer un peu le champ d'où tu parles. Tu nous as parlé de l'énigme du sujet. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu entends par là, en quoi en tant que chercheur ou même formatrice, qu'est-ce que tu entends par là, comment ça implique ta manière d'envisager l'enseignement, l'éducation, la formation et la recherche?
En fait, l'énigme du sujet, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire, alors que ce soit en tant que chercheur, formateur ou autre, sans prendre en compte le sujet à qui l'on s'adresse. Alors là, bon, là, on parle forcément du sujet enseignant, du sujet formateur. Bon, après, on peut aller jusqu'au sujet enseignant, c'est-à-dire que tout sujet est forcément à une histoire à laquelle lui-même parfois n'a pas accès, et que c'est au filtre de cette histoire qu'il va s'approprier les différents éléments qui sont sur son chemin et qui va donc s'imprégner d'une certaine expérience. Donc, si on n'a pas accès à ça, alors on n'a pas accès à ça directement. Mais la posture que nous avons en didactique clinique, c'est de le mettre au centre des analyses, c'est-à-dire de partir de son déjà-là avec le postulat que c'est au filtre de son déjà-là que l'on peut accéder à ce qui se passe réellement. Donc c'est pour ça, et c'est pour ça qu'effectivement c'est une énigme, parce qu'elle n'est pas transparente, même pas au sujet lui-même. Et donc ça, c'est la posture, donc la question est d'ampleur. Hein. Je pense que tu répondrais peut-être même mieux que moi à cette question, puisque c'est la question du sujet, effectivement, c'est le sujet, c'est un vaste chantier auquel nous nous attelons, et quelque part que nous avons cherché à théoriser dans le champ de la didactique clinique comme un sujet assujetti, singulier, divisé, pris, dans ce triple rapport, c'est ce que j'ai souligné. Et c'est la façon dont nous emparons du sujet.
Marie-France, je te remercie. Voilà, on a débordé 3 minutes, on avait commencé 3 minutes de retard, donc je pense qu'on va garder le timing, puisqu'on va enchaîner avec une deuxième session de conférence. J'ai copié dans le chat, mais vous les avez aussi reçus par mail, mais les liens vers les trois conférences simultanées qui se suivent, donc de Sylvain Genevoix, Jean-Luc Denis, Lenny et Jean-Luc Rinaudot. Donc, vous avez déjà choisi vos conférences. Nous, Marie-France, peut-être Régère, je ne sais pas, on se retrouve avec Jean-Luc, plutôt, on avait essayé de créer une certaine continuité, avec Jean-Luc Rinaudot, pardon, on avait essayé de créer une certaine continuité, mais pour les participants, vous êtes libre, vous avez choisi selon vos centres, selon votre statut, etc., différentes conférences. Vous avez les liens à côté, en tout cas. Donc, l'idée, c'est qu'on se retrouve à 15, d'accord, 11h15 pour la conférence de Jean-Luc Rinaudot, toujours pareil, sur 45 minutes, 30 minutes, 30 plus 10, quoi. Et puis ensuite, on prendra un petit temps de réflexion avec toutes les personnes qui seront présentes à distance pour revenir sur la matinée. Merci encore, Marie-France, pour cette...
Mais merci à toi et merci à vous tous d'avoir...
À tout à l'heure
là.
Pour discuter
voilà.
La suite.
À tout à l'heure.